Les images d'Alep en Syrie, celles des attentats des djihadistes ou encore des morts sur le chemin de l'exil, la violence inonde nos écrans et pénètre dans nos vies. Comment donc y résister? Le philosophe François Gachou nous invite à explorer l'intime, étonnant antidote qu'il qualifie d'urgent, d'un besoin aussi vital que de respirer. Il est l'invité de Haute Définition.
Haute Définition, Manuel Salvi.
Bonjour François Gachou.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, prof de philo à la retraite, ancien chroniqueur à La Liberté, quotidien fribourgeois, auteur notamment de « Quand la philo donne le vertige ». Elle donne vraiment le vertige, la philo ?
Oui, quand on se pose des questions existentielles qui nous concernent profondément, et notamment quand ces questions sont intimes, elles nous bousculent, elles nous bouleversent, et nous cherchons des réponses que nous ne trouvons pas si facilement. Raison pour laquelle la philosophie peut nous aider.
L'essentiel, c'est de chercher, c'est un art de vivre la philosophie. Auteur aussi d'explorer l'intime, vous avez parlé de l'intime justement, au cœur de nos jardins secrets. C'est un dialogue, parce que c'est plus accessible quand c'est sous forme de dialogue. On retrouve Socrate, là, notre philosophe grec, un livre bousculé par une expérience forte qui vous a laissé, je cite, sans voix, interloqué. C'est le Bataclan, les attentats de Paris. Vous étiez sur place le soir du 13 novembre, ça vous a laissé sans voix?
Oui, je sortais d'un théâtre, j'avais été voir une pièce de théâtre qui n'était pas loin de la place de la République, et en sortant avec quelques spectateurs, je me suis déplacé d'environ 200-300 mètres et j'ai vu les gens agoniser, j'ai vu le carnage effectif de ces jeunes qui mouraient sur le trottoir. J'étais paralysé, c'est insupportable, c'est intolérable. On ne peut même pas, sur le moment, réaliser la monstruosité qui se déroule sous nos yeux. Alors on a un sentiment de rejet profond, on a là aussi un sentiment de compassion, mais cette compassion nous paraît impuissante puisque ces gens meurent et qu'on ne peut plus rien faire pour eux.
Et vous vous sentez d'autant plus impuissant qu'effectivement ce sont des innocents. Vous en faites deux chapitres de votre livre. Votre livre consacré à l'intimité, c'est la violence là qui rentrait et qui est rentrée dans nos intimités.
Oui, c'est la violence à l'état pur. Comme le disait Elisabeth Roudinesco, il s'agit de la pulsion de mort par excellence. Et il n'y a pas de raison justifiable.
Mais cette violence qui fait irruption dans notre intimité, est-ce que c'est cela qui nous effraie?
C'est cela qui nous paralyse et nous laisse une interpellation incroyablement profonde. Parce que nous avons tous, au fond de notre conscience, la certitude que la vie qui nous a été donnée est, au fond, la valeur qui fait de nous des êtres singuliers et uniques.
Mais tous les totalitarismes, des nazis aux Khmers rouges à Staline en passant par Mao, ont évacué, nié cette question de l'existence même, de l'intimité. Les djihadistes de Daesh font la même chose, négation de la vie, négation de toute singularité. Pourquoi aujourd'hui c'est important de parler de l'intime? Et vous dites que parler de l'intime, c'est aussi vital que respirer. Mais vous prenez un peu le contre-pied de notre société du spectacle.
Oui, certainement. On doit s'interroger sur le pourquoi de ce que vous évoquez, à savoir les massacres, les goulags, l'extinction, les génocides de l'espèce humaine. Moi, je pense que la violence, quand elle est institutionnalisée, rend le pouvoir aveugle, au point qu'il s'arroge le droit de disposer de la vie des gens pour installer un régime qui, comme on le sait dans le totalitarisme, le mot même le dit, tue les libertés. Du moment que vous annihilez la possibilité qu'a l'homme d'inventer son art de vivre propre, et ça, c'est le lieu de l'intime, dès ce moment-là, vous êtes contrôlé et vous êtes persécuté si vous n'obéissez pas au diktat du régime.
Parler de l'intime, il y a quelque chose de subversif, François Gachou?
J'espère. J'espère au sens où je souhaite, par ce livre, essayer d'expliquer qu'une prise de conscience est nécessaire pour que nous ne vivions plus à l'extérieur de nous-mêmes, dans la superficialité des actes, par exemple, des réseaux sociaux qui sont très sympas, et qui montre qu'on a besoin d'exprimer quelque chose qu'on vit singulièrement, personnellement, et on veut le dire aux autres pour être reconnu. Mais il faut aller un peu plus loin et se demander, mais qu'est-ce qui fait finalement l'ancrage de notre intimité?
Et vous, le philosophe, vous avez la réponse. Où est-il? Parce que souvent l'intime est le sous-titre de votre livre, Au cœur de nos jardins secrets. il n'est pas visible pour les autres, mais parfois il n'est même pas visible pour nous.
Oui, parce que comme je m'inspire d'ailleurs de Michel Henry à ce sujet, ce philosophe phénoménologue m'a marqué, parce qu'il se pose cette question fondamentale, quelle est la seule manifestation de l'existence qui n'est jamais extérieure au sujet que je suis ? N'est-ce pas ?
Ah, ça mérite quelques sous-titres.
Cette manifestation, c'est la vie elle-même. La vie n'a pas de dehors. Je ne puis pas prendre ma propre vie, la mettre devant moi sur la table et l'ausculter comme un objet scientifique observable. Je peux évidemment dire que biologiquement, nous avons des cellules, des organes qui fonctionnent comme ci, comme ça, dans la diversification du cœur, du foie, des reins, etc. Mais cette réponse scientifique ne nous dit rien sur ce qu'est la vie du sujet en tant qu'il l'éprouve.
Donc sur cet élan vital qui nous pousse à agir, à vivre tout simplement.
Oui, alors l'élan vital, c'est au fond l'expression même de tout ce qui est intérieur à nous-mêmes, qui n'appartient qu'à nous, et évidemment tout cela varie d'un individu à l'autre, chacun invente sa propre trajectoire de vie, et de ce fait-là, il puise au cœur même de ce qu'il habite, de son intimité, de son expérience, de sa liberté, du sens qu'il donne aux choses, si par exemple il est croyant ou s'il n'est pas croyant, s'il bâtit une éthique ou non, s'il a le sens moral des autres et le respect d'autrui, etc. Donc tout cela vient d'un fond qui est l'élan vital, comme dirait Lévinas lorsqu'il parle de l'éthique et qu'il dit « le visage de l'autre homme m'interpelle, ce visage est nu, il s'offre à moi, et de ce fait-là, je puis me dire, il est semblable à moi, il est mon prochain, et par conséquent, j'ai vis-à-vis de lui la même responsabilité que je lui demande d'avoir pour moi. » Le fondement de l'éthique ne se trouve pas dans des règles codées que la religion formule, mais au cœur de la conscience, nous avons intimement de nous-mêmes face à la vie.
Mais ça veut dire aussi, François Gachou, que l'intimité, l'intériorité nécessite un travail sur soi pour mieux aller vers l'autre. C'est là qu'au XXIe siècle, il y a une révolution à faire, révolution de l'intime pour mieux vivre ensemble dans ce va-et-vient entre le dedans, l'intimité, et le dehors de la société.
Oui, je dirais que c'est exactement le mot programme n'est pas très adéquat, mais le but vers lequel nous devons tendre.
Mais le risque, c'est aussi la fermeture sur soi.
Ah, bien sûr. La fermeture sur soi est évidemment un obstacle majeur et qui est une tentation récurrente puisque nous avons tous aussi un potentiel narcissique assez élevé.
Mais vous le savez aussi, François Gachou, qu'aujourd'hui, beaucoup de débats, on pense aussi à l'islam qu'on évoquait tout à l'heure, tournent autour de l'universel, des valeurs fondamentales inaliénables et valables pour tous qu'il faut défendre. Alors, comment articuler ces valeurs universelles et ce singulier de l'intime ?
Eh bien, tout simplement, essayer par ce travail sur soi que vous évoquiez de partager ce qu'on appelle la conviction universelle de la valeur humaine à travers les droits humains, tous les hommes sont nés libres et égaux en droit et en dignité, évidemment que toutes les cultures n'ont pas pris conscience de ce que la Révolution française et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme a ainsi proclamé pour tous les hommes, de tous les temps et partout. Alors évidemment que si je vais en Afrique ou en Asie du Sud-Est et que je rencontre des personnes qui se trouvent dans des cultures ou des régimes politiques qui ne respectent pas les droits de l'homme, la seule façon de les aider, c'est au fond d'aller vers leur situation singulière intime, de les accompagner pour les éveiller à cette prise de conscience des droits de l'homme. Je me souviens avoir rencontré une Africaine dont la famille avait été massacrée au Rwanda en 1994 et qui était la seule survivante. Elle a mis des années, me disait-elle, pour arriver à pardonner aux assassins Hutus qui avaient éliminé les siens. Et quand elle y est arrivée, elle m'a dit « j'ai été libérée, parce que j'ai compris enfin que tout être humain fait le bien, mais est capable des actes les plus monstrueux dans sa vie. Mais il reste un humain. » Et il faut prendre en compte cette faiblesse humaine, non pour la justifier, mais pour essayer de réveiller les gens à des valeurs plus profondes qui touchent à l'intimité de chacun, finalement.
Mais les djihadistes du Bataclan, faut-il aussi leur pardonner ou faut-il défendre à tout prix, quitte à faire la guerre, nos valeurs fondamentales parce qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir?
Il faut défendre nos valeurs fondamentales parce qu'il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir. L'intolérable est insupportable et il faut le rejeter. Mais il y a au fond de chacun de ces djihadistes un être humain qui a aussi sa singularité, et donc lui faire faire le chemin de la prise de conscience de l'horreur des actes qu'il a commis est le seul moyen, en fait, de le réconcilier avec lui-même.
Mais c'est difficile, vous en conviendrez.
C'est très difficile, et puis ça n'est jamais gagné. Par contre, il est évident que du point de vue de la géopolitique internationale, on ne peut pas tolérer l'existence d'un État autoproclamé comme Daesh qui commandite le meurtre partout, par des attentats n'importe où sur des innocents. Il faut lutter contre ça, donc il faut éliminer Daesh, évidemment. Et dans ce sens-là, cette guerre de légitime défense est inévitable. On ne peut pas tolérer. Cela dit, évidemment, quand comme maintenant à Alep, les Russes bombardent eux-mêmes avec Bachar el-Assad des hôpitaux, cela aussi est intolérable et inadmissible. On ne peut pas dire que ce sont simplement des effets collatéraux, parce que ces innocents civils meurent comme vous et moi si nous étions dans la même situation.
Mais dans cette situation-là, internationale, dramatique, guerrière, n'est-ce pas illusoire ou dérisoire d'explorer l'intime ?
Oui, au niveau de la situation, de la marche des sociétés comme collectivité.
Le décalage est énorme.
Le décalage est immense. Évidemment que l'intime étant toujours le lieu même où on rejoint la singularité de chacun de ceux qui perpètent des crimes, alors évidemment que ce travail peut paraître complètement vain, où l'on voit d'ailleurs que beaucoup de ces dictateurs n'ont jamais regretté les actes qu'ils ont commis.
Mais ce qu'on comprend, François Gachot, à travers les lignes de votre livre, c'est que ça peut paraître dérisoire, mais que c'est vital, essentiel, urgent.
Oui, c'est vital, essentiel, urgent, comme il est vital, essentiel, urgent pour des parents qui voient leur jeune fille de 17 ans partir en Syrie pour faire le djihad et mourir là-bas, comme il est vital d'essayer de leur expliquer qu'elles sont complètement aveuglés par la propagande qu'il aurait faite à travers Internet par des imams inconséquents et criminels.
Mais le chemin vers l'intimité, vers ce travail sur soi, vers la réflexion, et là on revient un peu plus dans le jardin secret de chacun, c'est un chemin qui prend toute une vie. D'ailleurs vous-même, vous écrivez « Explorer l'intime au cœur de nos jardins secrets » alors que vous êtes depuis plus de 10 ans à la retraite.
Oui, d'ailleurs, je n'aurais pas pu écrire ce livre si je n'avais pas eu une assez longue expérience de la vie, ayant atteint les 75 ans maintenant. Et par conséquent, en revenant sur tous ces événements que je connais depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisque je suis né en 1941, en plein dans l'époque où l'Allemagne envahissait la France, etc., évidemment que j'ai connu cette époque où les totalitarismes se sont épanouis, notamment évidemment le communisme. Et évidemment, je me souviens que par exemple dans les années 80, je discutais avec la philosophe Jeanne Hersch à Genève, et puis elle me disait, je ne sais pas si moi, un jour, je verrai la chute du mur de Berlin, mais c'est arrivé.
Donc l'espoir existe, François Gachot, l'intime comme horizon nécessaire. Nous avons aussi, on arrive au terme de cet entretien, besoin de silence, d'intériorité, pour mieux sentir le monde, mais aussi pour mieux penser le monde, parce que c'est les deux rôles de la philosophie.
Oui, je suis très heureux que vous souligniez la nécessité de se tourner vers soi, comme saint Augustin se tournait vers lui-même dans la quête de sa propre subjectivité, qui ne trouvait pas son but. Son but à l'époque est évidemment l'intimité de Dieu, plus intime à lui-même que lui, selon la belle formule qu'il employait. Alors cela est nécessaire, donc je dirais que tout ce qui est du côté de ce silence intérieur qui favorise la méditation pour essayer de descendre dans les profondeurs du soi, et nous y sommes aidés par des personnes qui sont des conducteurs de vie, qui sont des gens au service des méthodes de méditation qui aujourd'hui sont tout de même pratiquées dans notre Occident. Il est évident que dans ce sens-là, si on prend des gens comme Mathieu Ricard, on voit très bien que eux écrivent des livres ou font des exercices qui nous invitent à la non-violence absolue.
Donc cette intériorité assumée, travaillée comme un chemin, nous permettrait de mieux nous engager dans la société pour défendre des valeurs fondamentales et universelles.
Oui, à condition de travailler sur soi pour devenir un non-violent radical. Je crois que la non-violence implique nécessairement le respect d'autrui et par conséquent l'envie de l'aider à le devenir lui-même.
Merci François Gachot.
Haute définition, une émission rediffusée ce soir à 22h40 sur la première que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet rtsinfo.ch.